rentrer ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les voix du scénarium. Sébastien au micro, on va passer une heure ensemble au programme de ce soir, la dernière partie de la partie d'Imperium 5. On va faire un retour aussi sur le financement participatif qui est maintenant terminé. Et puis tout de suite, on va parler nourriture. Alors, je pense que vous avez déjà manger à cette heure-ci, ou alors vous êtes plutôt des mangeurs tardifs, mais j'aimerais vous parler du livre de le livre de cuisine officiel Donjons et Dragons qui s'appelle Le Festin des Héros. C'est un livre qui est plutôt cool, plutôt agréable, qui a été publié aux éditions 404. Et c'est un livre de Kyle Newman, John Peterson et Michael Witwert. Que dire de ce livre, à part que c'est un beau livre, déjà, donc bon, c'est un livre de cuisine, hein, mais comme beaucoup de livres de cuisine qu'on peut trouver actuellement, c'est un livre qui ne se contente pas d'être un livre de recettes. On a de belles représentations des plats qui nous sont proposés. On peut par exemple imaginer des côtelettes de rôti glacé au miel de sembia ou des d'autres repas comme du quitpa. Vous savez pas ce que c'est forcément, mais le livre va vous emmener voyager dans les mondes de Donjons et Dragons. En effet, au long des 200 pages que compte, un petit peu plus de 200 pages que compte le livre, on va pouvoir arpenter plusieurs civilisations par le biais de leur nourriture, notamment bah, effectivement les civilisations humaines, mais aussi les elfes, les nains, les halflings. Et un chapitre est consacré à ce qu'on va appeler les cuisines atypiques, savoir des cuisines de monstres un peu particulières, et notamment des recettes à base d'autres ethnies comme le chili de halfling rôti à la flamme d'Arcane le Cruel ou encore le bacon d'orque. il y a plusieurs paragraphes à la fin qui vont aussi vous inviter à créer des bières et des breuvages qui pourront vous désaltérer pendant vos parties. Mais il y a également un chapitre qui est intéressant puisque c'est deux pages qui vont vous proposer de jouer avec la nourriture, c'est-à-dire d'intégrer les recettes du livre dans vos parties de jeu de rôle. Ce qui peut permettre de caractériser, alors vous jouez, je sais pas, un groupe de nains, ben vous pouvez faire tout un repas uniquement avec des recettes de nourriture naine, ce qui peut vous permettre aussi de vous mettre dans une super ambiance pour pouvoir jouer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire pour se marier entre potes. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire du team building, hein, puisque vous pouvez créer les recettes ensemble avec vos potes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est un livre qui est, comme je le disais tout à l'heure, très beau, puisqu'on va retrouver quasiment systématiquement une recette avec une illustration. Et effectivement, c'est Les recettes sont super belles avec une belle mise en scène qui me font penser à une autre série d'ouvrages que vous pouvez aussi utiliser dans le jeu de rôle, ceux de GastronoGeek. Vous verrez, c'est vraiment cool. Donc un ouvrage de 200 pages avec, j'ai pas compté le nombre de recettes, mais ça laisse quand même un nombre de recettes assez conséquent. Un livre qui peut aussi bien se feuilleter, se regarder, ou même juste le laisser à disponibilité des joueurs. Vous trouverez beaucoup de références à Donjons et Dragons dans cet ouvrage, hein, c'est normal, c'est le livre de cuisine officiel. On va aussi, avant chaque chapitre, vous parler un peu de l'ethnie et de la façon dont ils consomment, de la façon dont ils mangent et des éventuels rituels qui peuvent être créés autour de la nourriture, ce qui rend l'ouvrage encore plus intéressant pour approfondir aussi cette connaissance-là. On parlait des nains tout à l'heure, vous allez pouvoir vous poser la question de comment le nain a un rapport avec la nourriture et découvrir que peut-être que il y a plus de subtilité que le côté un peu brutal que vous imaginez dans des elfes, enfin des nains, pardon. Oups là, j'ai failli faire une bêtise. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est très très beau, très agréable à lire, que vous soyez rôliste ou pas. Si vous êtes rôliste, ça va vraiment vous parler. Si vous n'êtes pas rôliste, vous allez peut-être avoir aussi envie de créer certaines des recettes qui sont dans cet ouvrage. N'hésitez pas, en tout cas, c'est vraiment un bel ouvrage. Je vous donne les références, c'est Le Festin des Héros, c'est le livre de recettes officiel de Donjons et Dragons, c'est de Cal Newman, John Peterson et Michael Widver, et c'est publié aux éditions 404. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec The Warning et la chanson Money. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Let's go.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours les voix du scénarium. Là, sur cette deuxième partie, et puis avant de commencer le dernier moment, le dernier arc de cette partie d'Imperium 5, cette partie qui conclut le scénario que nous a concocté Patrick, j'aimerais bien faire un retour sur le financement participatif qui a eu lieu sur Game on Tabletop, qui est maintenant terminé depuis le 8 mai, donc ça fait bientôt une semaine. Un financement qui a atteint à peine les 300%. On était vraiment à un Pouillem à 1% d'atteindre les 300%, mais le projet a été le projet a été un succès puisque justement on atteint presque ces 300% pour financer le jeu. Donc je pense que Patrick est plutôt satisfait de ces résultats. Il faut savoir qu'on devrait avoir un late pledge. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués des financements participatifs, c'est on va dire la séance de rattrapage, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu financer le jeu en lui-même, mais vous avez quand même la possibilité d'accéder à certaines des contreparties et certains achats de manière tardive et de manière beaucoup plus sécurisée, puisque du coup en gros vous n'avez jamais de perte hein, sur un financement comme ça, mais c'est-à-dire que vous y allez, vous savez que c'est déjà financé et que les gens qui ont participé au financement participatif ont sécurisé le projet et vous ont montré que fallait y aller et il fallait vraiment y aller. Donc voilà pour le petit retour sur le financement participatif et le late pledge qui devrait commencer je ne sais pas quand, mais je pense qu'il y en aura un. Donc surveillez Game on Tabletop pour peut-être pouvoir accéder à ce late pledge. Je vous propose qu'on continue cette partie d'Imperium 5 sous la houlette de Patrick, le créateur du jeu. Et il y avait moi-même en tant que joueur, il y avait Frima et la rôliste. On parlera aussi de Frima et la rôliste, un de ces quatre, parce que tapez son nom dans un moteur de recherche et puis vous devriez tomber sur son site, vous verrez de quoi on parlera plus tard. Et puis Cyril qui était joueur avec moi-même sur cette partie d'Imperium 5. On se retrouve, on était pour mémoire dans une situation un petit peu compliquée où on avait quelqu'un qui avait disparu et d'autres personnes qui commençaient à s'activer. Je vous laisse avec les voix.
Et mon très cher Jorune, on dirait que Filchester ne veut pas te faciliter la vie et que les deux gars qui étaient de part et d'autre se joignent pour tout simplement te tirer quasiment au corps à corps des rafales de d'armes à impulsion dans le corps.
Très gentil.
Non, c'est pas très très gentil. Donc ce que je te propose, c'est de griller un point de karma. Alors, je note la préempse, le point de karma que je vous donnerai après. Et tu m'expliques en fait quelle capacité ou quel équipement tu mets en avant pour essayer de réduire les dégâts que tu reçois.
Mon costume alpha.
Ton costume alpha qui,
ouais. En fait, il génère une protection globale, donc techniquement, je pense que c'est...
Très bien. Donc ton costume alpha fait passer les dégâts que tu reçois de 16 à 11. Okay. Tu reçois 11 points de dégâts de cohésion physique. Mm-hmm. Donc ce qui déclenche une rupture physique.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous décrire la rupture physique ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ces tirs violents que tu viens de subir ?
Mais le comment dire, le le costume se déploie pas instantanément comme ça.
Et
du
ouais,
coup, le temps que ça protège, ils m'ont défoncé complètement une épaule. Et ils ont. Ouais, j'ai presque un bras qui pend en fait.
D'accord. C'est le bras qui peut tenir l'arme ou c'est un autre bras?
C'est pas le bras qui tient l'arme. Parce que
d'accord.
Je pars du principe que si on doit protéger quelque chose, il commence par protéger les choses vitales, tête, bras, qui peut se défendre et mobilité.
D'accord, ok. Donc, petit point de règle, quand vous perdez tous vos points de cohésion, en fait, c'est à ce moment-là que vous avez une blessure grave et vous pouvez subir 3 blessures graves avant de mourir. D'accord?
D'accord.
Donc là, en fait, il a une blessure grave, ce qui fait que tous les jets physiques qu'il va faire vont être réduits d'un dé.
D'accord.
Ok.
Et s'il en a une deuxième, c'est 2D, et une troisième, bah...
C'est 3D, exactement.
Ok.
Très bien. Donc j'avais préempté l'initiative. Qui veut reprendre la main entre Abdallah et Izuma?
Izuma, t'es peut-être plus vif que moi.
Izuma est mute.
Oui, j'étais mute. Je disais que ben là en fait c'est déjà collègue qui était en train d'agir. Et finalement, qu'est-ce que je peux faire de plus dans cette salle? Là, le but, ce serait de débloquer le pod, mais a priori, ça va pas servir à grand-chose. Il va pas ressortir en bon état.
Effectivement, si tu... Alors, t'as compris qu'il y avait quelque chose, parce que t'as entendu un peu la conversation qu'il y avait eu avec, avec Phil Chester père. Peut-être qu'en défonçant la porte du pod, tu peux extraire le gars. Bon, potentiellement, le potentiel intellectuel de Callister risque de d'être perdu.
Non, mais je vais discuter avec, quoi. Sérieux. écoute, je vais essayer de défoncer la porte à coup de flingue.
Ok.
Ouais, je peux lancer une pulsion électromagnétique, mais je pense que c'est pas assez fort.
Et ça peut, sur la porte, ça peut être assez fort. Potentiellement, bon, bah. Tu peux aussi te connecter, rentrer dans un des pods de virtualisation, puisqu'il y en a, en tout et pour tout 6. Il y en a qu'un seul qui est occupé. Donc, tu peux peut-être tenter de court-circuiter via l'intérieur, ou à travers les différents tirs, essayer de prendre contrôle des différentes consoles qui sont présentes pour hacker le système. Même si c'est pas ton expertise, c'est quelque chose que tu peux essayer de faire.
Clink, c'est bien. Je suis pas sûre de vouloir rentrer dans le pod. Je sais pas trop comment il marche, cela. Je pense que je suis en phase de descente. Faudrait que je reprenne un ride ou quelque chose. Mais là, avec l'adrénaline et tout, je veux un truc rapide et efficace.
Okay. Donc, tu me disais, tu veux défoncer la porte pour.
Ouais.
Pour le sortir.
Pour le faire sortir, petit père. Hein. C'est de la peine.
Ok. Ça m'a l'air d'être assez brutal comme action. Je pourrais te proposer brutalité ou savoir. Si tu prends brutalité, je te ferai gagner un point de karma.
Je vais prendre savoir quand même.
D'accord.
ouais, je vais prendre savoir. Et puis ce sera bien. Moi, j'ai toujours pas mon petit bidule plus. Hop.
Alors, tu peux prendre association, matière et propriété pour générer un truc un peu, tu vois, un peu explosif, tu vois.
Okay.
Un peu péchu. Donc, ça te ferait 6D.
Ok.
C'est moi qui lance.
A priori, j'ai retrouvé. Alors attends.
D'accord, vas-y.
Dés du joueur 6. Est-ce qu'il y a des dés de réalité?
Ouais, il y en a 2.
Ok. Pourquoi c'est catastrophique quand je lance pas... Ah, j'ai un bon présage. J'ai un bon
tu présage. As un bon présage. C'est bien, ça, un bon présage.
C'est bien.
Tu as, un bon succès, un bon présage, et moi, je ne l'interviens pas dans ta narration.
C'est ça.
Est-ce que tu veux amplifier tes succès ou... Ça risque d'être compliqué, là.
Non, je vais pas amplifier. Parce que,
d'accord.
Je vais pas amplifier. Je sors mes flingues. Je tire au niveau de la serrure, du mécanisme.
Et d'accord.
J'espère que ça s'ouvre tout seul et que j'arrive à l'extraire, en fait.
Ok. Donc tu commences à tirer au niveau de la serrure. Ça semble être assez solide, mais pas suffisant pour résister à des tirs de pistolet à impulsion. Et donc le pod s'ouvre, d'accord. Là tu vois une espèce de vague, tu sens d'abord une vague de froid, et le sol commence à se cristalliser. Les portes, pareil, sont envahi par le givre, et tu vois que la colonne elle-même commence à se givrer, sauf qu'en fait elle se givre de la partie haute vers la partie basse, bizarrement. D'accord. Le corps à l'intérieur, c'est celui de Callister. Tu penses qu'il est il est bleu.
Froid,
très froid. Qu'est-ce que tu veux faire avec le bon présage? Donc un bon présage, c'est comme un espèce de méga critique qui te permet, qui vous permet en fait de narrer quelque chose d'assez exceptionnel, qui peut être équivalent à deux réussites, ou qui peut, selon la table, qui peut être de la narration véritablement prise de contrôle de un petit peu de la scène. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton bon présage?
Ben, j'aimerais bien le sauver, entre guillemets. C'est-à-dire que vu que je connais la structure des corps, enfin, du corps humain et tout, j'aimerais le réchauffer et faire en sorte qu'il n'ait pas perdu trop de.
Alors, est-ce que tu veux garder sa conscience? C'est-à-dire, même le corps, tu pourras le reconstruire?
Oui, c'est ça. Je veux que sa conscience, elle soit intacte.
Ok. Tu peux me décrire de façon narrative, avec tes capacités, la manière dont tu vas emprisonner sa conscience dans son corps, ou tu vas l'extraire du pod, un peu comme si tu l'arrachais. T'as véritablement l'impression qu'il y a quelque chose, des mains très grandes qui ont l'air de s'être enfoncées dans son crâne, un peu comme une espèce de vision holographique. Et qu'il est en train de lui arracher en fait son âme par la tête.
Ben, du coup, j'aimerais avec des nanoparticules faire comme un sarcophage. Je sais pas si c'est possible.
D'accord.
Et ce sarcophage le réchaufferait et préserverait et arrêterait le processus de givre, et puis le déplacer le plus vite possible et il n'y a pas de sorte de disquette de conscience, hein, donc il faut. Je ne sais pas comment on peut extraire. C'est une question qu'on n'a jamais abordée. Comment on peut extraire l'âme de quelqu'un pour. Normalement, il suffit d'une particule. Il y a des banques de données, donc je ne sais pas. Enfin, je vais pas lui arracher un doigt au pauvre gars. C'est un peu bizarre.
Non, là, en fait, ce que tu ressens véritablement, c'est qu'il y a quelque chose qui a l'air de sortir du bloc de plongée. Comme des espèces d'énormes mains, tu les vois d'ailleurs, c'est très particulier, des mains très longues, avec des doigts très longs, assez crochus, des doigts marrons, légèrement gris, qui semblent être vraiment plongés dans son corps, comme si c'était un fantôme qui plongeait ses mains au niveau de la tête de Callister, et il est en train en fait véritablement d'extraire son âme.
Premier temps, je suis tentée d'enlever les mains à main nue.
Et ok.
Et puis je me ravise. Et Et puis du coup, ouais, je sais pas si faut que je fasse vite en plus. Je sais pas quoi faire. Je suis choquée de ce que je vois. Et pourtant, il y a pour me choquer.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on, je te laisse réfléchir.
Ouais.
Un peu comme dans un, on passe la caméra à Abdallah. Abdallah, tu vois un peu la scène, tu vois ses énormes mains, tu vois de l'autre côté de la pièce, quasiment à l'opposé, une Hyde qui vient de se faire tirer dessus de façon extrêmement violente, et tu vois qu'il est vraiment blessé grièvement. Et tu sens un froid intense qui est en train de se propager au travers de toute la pièce. Ce froid est tellement intense que le sol se craquelle, devient givré, que l'air lui-même commence à se figer, et qu'on voit que tu, au moment de ta respiration, tu vois en fait cette vapeur d'eau sortir de ta bouche. Phénomène tout de même assez exceptionnel dans l'univers d'Imperium. Que fais-tu ?
Une bonne question. Les grosses mains, on est d'accord que je comprends que c'est holographique, donc c'est pas réel. Enfin,
c'est réel.
C'est virtuel, mais c'est pas.
Pour toi.
C'est pas physique.
Ouais, pour vous trois, ça vient de l'onde. Donc c'est effectivement c'est pas réel, ça vient pas du réel, mais ça vient de l'onde. Mais ça, c'est pas parce que ça vient pas du réel que c'est illusoire. D'accord.
Non, mais
c'est juste que ça vient de l'onde.
En fait,
c'est intangible.
Taper dessus ou tirer dessus, je sais que ça servira à rien.
Ouais.
Du coup, et on est d'accord que Unid, quand il s'est fait tirer dessus, les gars arrivaient d'une autre porte de cette même salle.
En fait, ils étaient dans la salle. Toi, tu as vu que la scène au moment où il y a eu les tirs.
Nous, d'accord, on est rentrés, eux, ils sont sortis de la salle.
Non, non, vous êtes rentrés par une des portes. Unid, oui. Lui, il était au niveau d'une autre porte.
Oui.
D'accord. Et au moment où la porte d'Unid s'est ouverte, en fait, ils étaient déjà en position.
Où nous, on est rentrés.
Ouais, exactement. Ils étaient déjà en position dans la salle dans laquelle vous êtes entré. C'est la salle principale que vous voyez au niveau de l'image. Cette espèce de grande salle circulaire avec les pods de virtualisation. Et en fait, dès que les portes se sont ouvertes, ils ont tiré, comme s'ils avaient imaginé ou ils avaient déjà prévu que quelqu'un allait passer par cette porte.
Ok. Du coup, en fait, je vais rejoindre. En fait, je vais les prendre à revers. Okay. Donc, je vais faire le tour pour arriver par derrière eux. Et je mitraille, quoi. En essayant de ne pas toucher une Hyde.
D'accord, ok. En fait, si tu fais un 8 avec ton dé d'entropie, ce sera très chouette. Ça mettra, un peu de baume au cœur à une Hyde, puisque ce sera un mauvais présage et qu'il en prendra plein la gueule.
Donc si on peut éviter, je suis content. Hein.
Ouais, mais t'as des exigences aussi, je trouve, un peu abusées.
c'est clair. Très bien. On va partir sur de la brutalité avec le flingue, ça te fait 6 dés.
Ouais.
Est-ce que tu veux cramer un point de karma pour avoir 7 dés ou on laisse à 6 dés?
Ouais, on va cramer un point de karma.
Ok. Je laisse 2 dés de réalité. Et je lance. Oh bah dis donc. Tu as fait 4-1, 2-2. Donc ça te fait 6 réussites. Par contre. Ah, et c'est ça que je trouve assez.
Dommage.
Tu as fait 8 au dé d'entropie. Donc tu as généré un mauvais présage.
Est-ce que je peux l'annuler avec un point de karma, par exemple ou...
Non. Tu peux par contre utiliser ce qu'on appelle un reroll. Par contre, tu lances toute la main. Tu relances toute la main. Donc tu perds 6 dés de réussite.
C'est chaud.
Alors, sincèrement, Sébastien, tu connais ma chance, je relance pas.
Vaut mieux pas relancer, en effet.
Ok.
Donc voilà, non, je garde.
Très bien. Ok, bon, alors là, on va... Quand on obtient autant de dés de succès, alors qu'il y a très peu de d'opposition, bah, grosso modo, t'as un joueur confirmé dans Imperium. Bah, en fait, il prend la scène et puis il commence à raconter ce qu'il veut parce qu'avec ça fait 6 unités narratives. C'est assez important. Mais imaginons que, comme d'habitude, on va prendre 3 unités narratives, 2 qui vont générer les dégâts, 1 qui va te permettre de cibler plusieurs personnes. Donc, il y a 3 unités narratives qui t'ont permis, en fait, d'éliminer ceux qui avaient blessé grièvement Unid. D'accord?
Et Unid en 3e personne.
Le mauvais présage, c'est pas nécessairement moi qui l'interprète. Ça peut être toi. Hein. D'accord, tu peux aussi dire que tu te blesses ou que voilà. Donc si t'as pas d'idée, je prends le relais. Mais sinon, ça peut être. Non, bah,
je vais partir là-dessus en fait. Alors j'ai un pistolet d'intervention, c'est ça?
Ouais.
On va dire que je tire tellement comme un sourd avec que j'ai une douille. Enfin, je sais pas si ça marche avec des douilles, mais un arc énergétique qui part et qui va brûler mon bras cybernétique, mais mon bras humain.
Ok.
Va recevoir une brûlure liée à la surcharge du pistolet.
D'accord, ok. Alors, ce que je peux rajouter un peu là-dessus. En fait, tes tirs sont tellement, vont un peu dans tous les sens. Et visiblement, en fait, ça déclenche des flux d'énergie. Les pods de virtualisation sont touchés. En fait, les arcs électriques qui te touchent te picote entre guillemets un peu, mais visiblement les bras ne sont pas si intangibles que ça. Et en fait, il y a plusieurs de tes tirs qui traversent en fait les deux gigantesques bras, et il y a un des bras qui se détache justement de Callister et qui vient et qui en fait te balance à travers la salle. Et qui t'envoie valdinguer à travers les consoles, à travers les sièges, et tu t'écrases contre le mur de la salle circulaire. D'accord? Et tu perds la modique somme de 8 points de cohésion physique.
Ah. Donc je prends une blessure importante.
Ok.
Qui fait que
en fait ça retombe automatiquement si tu tombes à zéro, tu coches ta rupture et tu repasses à ton maximum.
Oui, j'avais compris le système.
Voilà.
Ok, donc je vais considérer que je me suis blessé au... Je réfléchissais, non, je réfléchissais.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a eu un silence. Je me suis ruiné un genou.
Ok, d'accord. Donc tu essayes de te relever, malheureusement ton genou cède sous ton poids, sous la force que tu exerces dessus. Là, pour l'instant, t'es encore un peu sonné.
Et donc je me déplace un peu comme John McClane à la fin de Piège de cristal, quoi.
D'accord.
En traînant la jambe derrière.
Quelle belle image. Donc on repasse la main à Frimae, donc Zuma.
Du coup, moi j'ai l'idée d'essayer en fait de faire redescendre ses mains de là où elles sont venues. Et du coup, avec des nanoparticules, je vais essayer de reconstituer le reste du corps, puisque là on ne voit que des mains et des avant-bras. Et à partir du moment où on verra cette silhouette, je me dis qu'on pourra probablement la repousser dans le pod et que et qu'elle sera qu'elle repartira là d'où elle vient.
Parfait, très bien. Donc effectivement, l'ensemble des particules que tu projettes qui sortent de tes des fioles et que tu arrives à contrôler naturellement, qui font partie de ton équipement, en fait semblent effectivement, alors elles repoussent pas, elles semblent être absorbées par par les bras. D'ailleurs, il y a un des bras qui a lâché Callister.
D'accord.
Ce qui t'a permis aussi de facilement en fait de l'extraire, et tu penses que une partie de sa conscience est encore intacte, mais vraiment une partie. Partie. Mais voilà, il a tout de même été affecté.
J'espère qu'il a des sauvegardes.
Et tu sais, même quand tu as des sauvegardes, j'ai cru comprendre qu'il y avait des nobles dimanche dernier, qu'il y avait des nobles qui avaient la capacité d'empêcher les sauvegardes. Enfin bon, je dis ça, je dis rien.
Non, elles empêchent le rebuild. Elles empêchent pas les sauvegardes.
Oui, bien sûr.
Mais je peux pas le dire parce que sinon on va révéler des secrets qu'on n'a pas dit dimanche.
D'accord. Et en fait, l'ensemble de ces particules sont absorbées effectivement, les bras deviennent moins gigantesques et progressivement au sein même du pod de Rebuild commence à apparaître une forme physique, un corps. Sortons de l'onde abyssale, crépitant. Toute l'énergie autour de lui a l'air de crépiter, et tout en étant extrêmement forte, cette énergie crépitante semble absorber toute chaleur autour de lui. Donc l'effet de froid, d'accentuation, de givre s'accentue énormément, et en fait tu as un espèce de bloc de givre gigantesque qui commence à entourer complètement les différents pods de virtualisation. Tu es très proche, Zuma, de cette créature qui semble sortir de l'onde, qui semble s'intégrer. Tu penses qu'en partie grâce à toi, qu'en partie grâce aux particules qui t'ont permis en fait de libérer Callister, elle les a absorbées pour s'en nourrir, pour se fabriquer, se constituer un corps. Puisqu'il n'a pas de corps composé de plasma.
D'accord.
C'est vraiment en fait les particules qui étaient présentes. Tu vois d'ailleurs même une partie du sol qui semble être désintégrée par la glace, qui se déstructure, et l'ensemble des particules et des nanobots qui constituent le sol, ben en fait sont absorbés et viennent construire son corps. Il apparaît devant toi. Il fait un peu plus de 2,40 m. Il est très longiligne. Ses bras sont un peu disproportionnés par rapport au reste de son corps. Il a ces espèces de marques oranges qui commencent à devenir de plus en plus visibles puisque tout son corps est en train de se construire.
D'accord.
Il lève le bras dans ta direction.
Mais pourquoi ?
Je suis la réalité dorénavant. Vous deviendrez un monde comme le mien, une illusion. Je suis la réalité. Il regarde vers la droite, en direction d'une id, mais tu n'as pas l'impression qu'une id, qu'il te regarde toi.
Il regarde à travers moi.
Il doit regarder quelque chose qui doit être pas très loin de toi.
Je mets un coup de pied dans le...
On est d'accord. On est d'accord. Je te servirai. Et il commence à s'approcher vers toi, Unide. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, il pose le premier pied. À chaque fois qu'il pose un pied, l'ensemble de la glace qui maintenant recouvre l'ensemble de la salle est complètement se fissure et se reconstitue tout aussi rapidement. Il pose un deuxième pied. Pareil, une espèce d'onde très forte est générée et brise la glace. Il y a même les stalactites qui tombent, tellement le froid s'est répandu à travers toute la salle. Et il est en train de poser le troisième pied au sol. Il est à moins de 5 mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais, Zuba?
Du coup, instinctivement, je m'écarte. Cette créature me fait frémir au plus profond de mon plasma. Et je m'écarte le plus loin possible.
Enfin, il se dirigeait vers Zuma, mais parfait pour ta réaction. Très cool. Zuma, que fais-tu?
Moi, je voulais le pousser dans le pod, en fait.
Tu veux te courir dans sa direction pour le repousser?
C'était l'idée principale, en fait. C'est le reconstituer pour pouvoir le mettre dans le pod et le renvoyer d'où il vient, en fait.
D'accord. Donc, est-ce que tu veux utiliser un point de karma ou est-ce que tu veux lancer les dés?
Je suis joueuse, j'ai envie de lancer les dés.
Très bien. Alors, dès à présent, je peux te dire que tu vas avoir 6 dés de réalité.
Je vais utiliser un point de karma. J'ai dit que je jouais.
Non, mais tu peux. Parce que c'est plutôt une action brutale ou dynamique que tu es en train de faire.
Et ce serait plutôt quelque chose de créatif. Est-ce que ce serait les nanoparticules qui l'attraperaient et qui le repousseraient?
Ah ouais, mais tu m'as pas décrit ça. Donc ok. Donc c'est important que quand tu décris ton intention, en fait tu mettes en avant le fait que ce soit créatif. Sinon moi je peux pas le deviner.
Ouais. En gros, il reste encore plein de matière tout autour. Et vu que je sais la manipuler, je me dis que je vais créer des espèces de gros bras. Des gros bras un peu comme ceux de mon ami Abdallah, qui vont l'attraper. Qui vont essayer de le tirer jusqu'au pod. Et moi, je vais claquer la porte et je vais lui dire « Hasta luego, connard ».
D'accord. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que tu n'as pas de capacité qui te permet en fait de créer comme ça.
Parler espagnol des... je comprends.
Ouais, non. Alors, tu peux utiliser les particules parce que en fait, tu vas affaiblir le sol qui est sous lui, ça va se désintégrer très légèrement, ce qui fait que c'est toi quand tu vas le pousser. Et
oui,
ça va, il va y avoir un effet.
J'ai pas de capacité pour ça, mais je suis quelqu'un de fort et de plutôt doué dans mon domaine. Donc je me dis, allez, je tente une expérience. Ça se trouve, en associant la matière, ça va fonctionner, tu vois.
Ouais, mais c'est une compétence, associer la matière. Tu vois, c'est pas...
J'ai association de matière et propriété dans mes spécialités.
Tout à fait. Mais c'est une compétence, c'est pas un pouvoir.
Plut alors.
Eh oui. Tes pouvoirs, c'est flamme, EMP. Et après, effectivement,
tu peux lui foutre le feu, alors. La fameuse boule de feu facile.
Tu peux lui foutre le feu, si tu veux.
Est-ce que les gars sont chauds pour que je foute le feu à la créature? je peux lui foutre le feu et le rebalancer dans le pod. Comme ça, je détruis tout.
Ouais, ok. On peut tenter ça. Donc, ça te fait 4D plus... Association matière et propriété, ça te fait 5D.
Ouais.
D'accord. Et moi, je te donne 6D de réalité.
Vas-y, je suis une joueuse, j'ai dit. Alors, où est le petit board là? Alors. On a dit 5D de joueur et tu m'as dit 6D de réalité?
Ouais.
Ok. Est-ce que vous voulez m'aider ou pas?
Je t'en avais cher comment?
Oui, je vois pas bien comment on peut... à part comme tu faisais tout à l'heure avec moi, c'est-à-dire « Ouais, vas-y, trop bien !» Défonce-lui sa gueule.
C'est parti, je lance, tant pis.
Ouais, vas-y. On peut lui tirer dessus en même temps.
J'ai un bon présage, j'ai une réussite. Et le MJ, il a une réussite.
Alors, le MJ, il n'a pas une réussite. Il en a 4.
Non, il en a une.
Puisque c'est un personnage majeur, d'accord? Donc, les personnages majeurs peuvent aussi avoir des paradigmes. d'accord, qu'ils peuvent utiliser. Donc, toi, tu as une réussite, un bon présage. Est-ce que tu gardes ce jet de dés ou tu veux...
J'ai envie de relancer parce qu'il me reste des points de karma et que c'est la fin et que ça se trouve, je peux faire mieux, en fait.
Comme tu veux.
Je relance tout, c'est ça ?
Ouais. Eh ouais. Donc, ça veut dire que tu enlèves ton dé d'entropie.
C'est quoi, je suis joueuse ? J'ai la poisse, j'ai trois réussites. Est-ce que le dé d'entropie compte comme une réussite ? C'est les règles optionnelles.
Le dé d'entropie compte comme une réussite.
Donc, j'ai quatre réussites.
Alors, moi, je vois trois réussites pour l'instant.
Bah non, puisqu'il y a le dé d'entropie, j'ai un. Ah non, putain, c'est un 3.
Eh ouais.
Ouais, mais ça se passe. Non. Je vais pas essayer de faire fouiller. C'est pas un humain, à mon avis.
Donc, moi, j'ai 5 réussites, moi.
Bah tant pis. Ça va pas fonctionner, c'est pas grave. Vu que je suis en train d'inventer quelque chose, est-ce que je peux. Bah non, je l'ai déjà utilisé, inventer. Non, j'ai utilisé abuser.
Tu peux utiliser inventer si tu veux.
Ok, donc j'ai utilisé inventer. Ça me fait 4 réussites.
Ok.
Et du coup, vu que j'essaye de le renvoyer dans Londres, on peut estimer que c'est virtuel ou pas ?
Ouais.
Donc je plie la réalité, j'utilise virtuel. Et du coup, j'ai 4. 5, ça fait, ouais, c'est ça. 3, 4.
En fait, t'as 3 réussites, plus l'entropie, ça fait 4, plus une, ça fait 5.
Ça fait 5.
C'est bien ça ?
Oui.
D'accord, ok. Alors, tu te précipites sur lui, d'accord ?
Oui.
Progressivement, l'ensemble des particules qu'il a utilisé sur son corps pour se propager dans le réel sont en train de se transformer en molécules inflammables. Il commence à y avoir des espèces de petites explosions, des flammes qui commencent à se propager, etc. Il est un peu incrédule, il regarde un peu ce qui se passe, d'accord ? Tu te colles à lui pour le pousser, d'accord ? Là, tu vois qu'il te regarde, tu le regardes, il t'entoure de ses mains, d'accord ?
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Bah, en fait, il va utiliser ses 5 réussites, puisque c'est une riposte, avant d'être propulsé à nouveau dans le pod de Rebuild, puisque tu arrives à le pousser dans le pod de Rebuild et à le désintégrer, puisque tu as enflammé l'ensemble de ces, comment on appelle ça, de ces particules. En fait, il semble en faire à peu près de même pour toi. Et tu perds 3 ruptures.
Ah ouais, carrément.
Et tu t'effondres au sol.
Ah. Ouais.
Et on va s'arrêter ici.
Oh.
Vous avez repoussé le chaman. C'est le nom de cette créature qui sera visible dans la campagne mercenaire qui sera incluse dans le livre de base. Qui est une entité qui provient de l'onde profonde et qui a utilisé en fait des brèches qui se sont ouvertes au moment des expériences de Greyhawk Entertainment. Peut-être que il y a un noble derrière tout ça qui a facilité les choses.
On ne peut pas en dire plus.
Peut-être. Et qui ont facilité le passage de cette créature vers le réel. toujours ouverte. Est-ce que William Filchester va faciliter les choses? Quoi qu'il en soit, le chaman a été repoussé pour l'instant, retardé, dans son action sur le réel, au prix de moult blessures et du sacrifice de Zuma, qui va soit activer un de ses clones, donc ça c'est un choix que les joueurs peuvent faire, ou peut-être juste d'un rebuild qui est beaucoup plus,
plus économique.
Et ça, en fait, il faut que ce soit les autres joueurs qui fassent les démarches pour rebuild leurs camarades. D'accord ? C'est la notion de rebuild, la notion de reconstruction, rend les personnages dans Imperium 5
presque immortels.
Et pour cela, bah, en fait, il faut une particule, des cheveux, bref, n'importe quoi, que tu places dans ce qu'on appelle un pod de rebuild, et à partir de là, bah, en fait, on reconstruit entièrement un corps. Donc là, comme Zuma vient de perdre totalement, en fait, son... d'être quasiment brûlé, vif, il doit rester peut-être, tu sais, uniquement ses pieds et ses chaussures, tu vois, ou peut-être ses cheveux.
Les chaussures nous aident vraiment à le reconstruire.
Bah, peut-être qu'il y a des orteils à l'intérieur des chaussures,
non,
on ne sait pas.
Même, il y a tout ce qui va être la transpiration, tu sais, je suis toujours sale, il paraît, donc techniquement, je pense qu'il y a assez de matière dans mes pompes pour me rebuiller.
Et donc, il est effectivement possible de rebuild Zuma, mais vous venez de vivre une expérience assez particulière, l'une des premières de votre vie, celle où une créature de l'onde ressurgit dans la réalité.
Radio G, 101.5 FM.
Voilà pour cette partie d'Imperium 5. Je remercie encore très chaudement Patrick de m'avoir masterisé cette partie, de l'avoir masterisé pour vous, chers auditeurs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous convaincre d'aller chercher le Let's Play d'Imperium 5, à défaut de ne pas plus voir encore participer au financement participatif. C'est un beau projet, c'est un bon jeu. Donc allez-y. Faites-nous confiance, faites-vous confiance, parce que ce que vous avez écouté vous a certainement donné envie d'y jouer, ou au moins de découvrir ce jeu. Donc ça se passe sur le site d'OBA Edition. Et puis voilà, encore une fois, merci à Patrick, merci à Frimae aussi de s'être prêté au jeu, de cette partie sur les voies du scénarium. Merci encore à Cyril. Et puis on se redonne rendez-vous dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium.
Bonsoir et bienvenue dans Le Point G, l'émission qui parle des sexualités. Dans cet épisode, nous allons continuer à aborder un sujet qui vous concerne peut-être, le dick pic ou la dick pic, terme anglais formé par le mot dick et le mot pictures, donc littéralement image de pénis. Il est temps de toucher du doigt et de l'oreille Le Point G. Alors donc, on continue de parler dick pic. Il y a bien déjà eu un épisode du Point G où on a eu le témoignage de Caroline. Ce soir, deux autres témoins, un hétéro et un gay. On verra si la gestion des dick pics est différente dans ces deux univers. On va essayer ce soir de comprendre pourquoi certains mecs font ça et le risque qu'ils encourent, car le retour de bâton peut être surprenant. Vous verrez. Pour en parler avec moi, nous avons Olivier, Florian et Titouan. Bonsoir les garçons.
Bonsoir.
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 Allez, détendez-vous, on est entre nous. Vous ne rêvez pas, vous avez trouvé le point G. Ça peut donc paraître étonnant, mais oui, il y a des hommes qui envoient dans des messages personnels des photos de leur sexe, et ce, sans qu'on leur demande. C'est bien le problème. Alors, pourquoi les mecs envoient leur sexe en photo alors qu'on ne leur a rien demandé ?
Alors, de nombreux sexologues et psychologues se sont penchés sur le sujet, si je peux dire. Et pour eux, les hommes, ils sont conditionnés pour croire que leur pénis est le centre de leur virilité, de leur pouvoir de séduction. Les hommes qui pratiquent ces envois non sollicités sont persuadés en majorité que les femmes, voire les autres hommes gays, sont excités systématiquement à la vue d'un pénis. Mais tout ceci n'est que la projection de leur propre fantasme. Dans le cas des femmes, il faut savoir qu'elles sont beaucoup moins excitées par le visuel,